100% entrepreneur.
Confidence d'un parcours.
Ils vous disent tout sur WeDoBiz.
Chers amis auditeurs, bonjour. Benoît Duchâtelet à l'antenne de WeDoBiz. Pour l'émission Les Hommes Clés, j'ai le plaisir de recevoir Yannick Hercha aujourd'hui. Bonjour Yannick.
Bonjour Benoît.
Yannick, vous êtes invité sur WeDoBiz aujourd'hui pour faire le point de ce parcours d'hommes clés que je voulais mettre en lumière, les moments clés qui ont été les vôtres, et vous nous parlerez de vos projets clés, parce que vous avez un profil atypique, en tout cas d'une richesse que nous voulions détailler aujourd'hui. Vous avez commencé le siècle dernier sous les drapeaux, fini le siècle dernier sous les drapeaux avec un parcours militaire, ensuite un projet international dont vous nous parlerez.
Absolument, oui.
Et une envie de création d'entreprise, ouais, qui vous a emmené dans le pays multilingue. Et nous reviendrons sur ce point tout à l'heure. Yannick, si vous voulez bien reprendre avec nous, pour les hommes clés, la fin du siècle dernier dont je parlais.
Mais alors, tout d'abord, Benoît, vous avez dit atypique, mais je crois que tous les entrepreneurs sont atypiques. Les entrepreneurs sont des personnes qui ont... le goût du risque et une capacité à supporter le risque supérieur. La motivation financière est une motivation de l'entrepreneuriat, mais c'est pas la seule. C'est tout simplement un style de vie.
Alors, un état d'esprit, un style de vie, oui.
Absolument. Et donc, mon parcours, en fait, a commencé très tôt, à 18 ans. J'étais professeur de français au Liban. C'est-à-dire que pendant un an, j'enseignais le français au collège. Et j'apprenais l'arabe à l'université Saint-Joseph de Beyrouth.
Oui, ce qui n'est pas forcément ce que font tous les enfants de 18 ans en France aujourd'hui.
Absolument. Donc déjà, depuis très très longtemps, un goût de l'aventure, une passion pour les cultures étrangères, pour les langues, et puis pour le risque aussi, puisque aller au Liban en 93-94, c'était quand même vivre une certaine vie assez mouvementée et risquée.
Oui, malheureusement, le Liban a continué à avoir de nombreuses périodes de risque et son histoire a été bousculée. Vous parliez de risque et de terrain. Vous avez commencé par les langues. Je vous ai présenté également comme militaire tout à l'heure.
Oui.
À quel moment avez-vous fait la jonction vers l'armée de terre ?
Eh bien, à mon retour du Liban, je suis rentré pour faire mon service militaire et je me suis engagé. Donc pendant 5 ans, j'ai été expert de systèmes de télécommunication et d'information. Donc avec de très bons souvenirs, des souvenirs geeks, je dirais, en 1995 jusqu'à 98, je travaillais sur des systèmes de chiffrement, de cryptage de l'information, et on testait bien avant que les mots SMS et MMS ne passent dans le langage courant, on testait des envois de fichiers doc, PowerPoint, par radio cryptés.
Oui, de toute façon, un peu comme l'aérospatial, l'univers militaire a souvent été la source de découvertes techniques, ouais, et de développement.
Tout à fait. Donc, un environnement, en fin de compte, un background très technique, très il y a aussi informatique, qui m'a aidé dans mon expérience actuelle de compréhension.
Un geek en camouflé, et qui entend siffler les balles, c'est pas non plus très fréquent dans l'univers des geeks dont vous parliez.
Oui, peut-être, mais j'ai en tête, mais j'ai oublié le nom, le cas d'un entrepreneur américain qui était officier en Israël et qui a failli louper sa levée de fonds parce que justement il avait les VC au bout du téléphone alors qu'il était sur un terrain assez bruyant il y a quelques années en Israël.
Voilà des retours d'expérience s'il en est. Vous avez ensuite 10 années, présentez-nous, juste après avoir quitté donc l'armée, vous êtes revenu... où s'est faite votre expérience après ?
Alors pendant 10 ans après ce parcours au ministère de la Défense, j'ai travaillé comme développeur commercial à l'export. Donc essentiellement sur les continents africains et du Moyen-Orient, aussi avec des incursions sur l'Asie.
Et vous en avez retenu quelle expérience ? 10 années, c'est long après avoir goûté à l'uniforme et au terrain. Développement à l'international, donc toujours pratique des langues. Vous disiez que vous aviez commencé au Liban.
Oui, tout à fait. Ça a été très utile. Beaucoup de mes clients au Liban étaient libanais. Donc ma connaissance de la langue était très, très utile pour créer la relation.
Opérationnelle, du coup.
Ouais,
oui,
tout à fait.
Donc les langues, toujours. Vous avez, après toutes ces années, eu le goût de l'entrepreneuriat, l'envie majeure de pouvoir vous prendre en main après ces années d'expérience pour ce développement dont vous nous parliez. Je n'ai pas présenté votre projet au départ parce que je voulais qu'on fasse un point sur les moments clés qui avaient été les vôtres. Mais vous avez un projet phare qui s'appelle le You Speak It. Si vous pouviez nous présenter plus en détail la particularité de ce projet et ce qui en découle.
Alors c'est un très vieux projet, je dirais, qui a commencé à germer dès les premières années, lorsque j'enseignais le français et lorsque j'ai dû apprendre l'anglais. Et dans les années 90, donc, je m'étais mis à enrichir mon vocabulaire en regardant les films en VO et en notant le vocabulaire dans un carnet de vocabulaire, m'arrêtant à chaque séquence ou chaque mot inconnu. Et donc,
ça vous le faisiez en quelle année ?
95. Et
déjà,
donc, et je voulais passer le TOEIC. Et cette méthode a fonctionné puisque j'ai eu 985 sur 990 au TOEIC.
Oui, ça reste une belle performance.
J'avais du mal à y croire. Je pensais qu'il y avait une erreur. Et donc, ce besoin, cette expérience que j'ai faite, et souvent l'innovation provient d'un besoin qu'on a ressenti soi-même. Et je pense au fondateur de Sony qui a créé le Walkman de cette manière. Il joue au golf, il voulait écouter la musique. Il s'est dit, comment est-ce que je peux écouter la musique en jouant au golf ? Eh bien, de la même manière, je me suis dit, comment est-ce que je peux et comment est-ce que d'autres personnes peuvent s'améliorer dans une langue étrangère et enrichir leur vocabulaire ? Donc, cette idée est assez vieille, mais elle a été mise en pratique. J'ai commencé la R&D en 2007. Sur ce projet. Et en fait, en 2010, en octobre 2010, c'est-à-dire 2 mois après que YouTube ait sorti officiellement la transcription interactive, nous avons, chez You Speak It, nous avons développé cette même technologie. Donc on avait 2 mois de retard sur YouTube, mais c'était quand même déjà pas mal, une assez grosse fierté.
Il me semble.
Donc la transcription interactive, c'est-à-dire la transcription par reconnaissance vocale d'une séquence audio dans une vidéo, par exemple. Un speech d'Obama va être retranscrit en texte et va être time-codé, c'est-à-dire qu'on aura le temps qui va permettre donc de synchroniser cette transcription comme un sous-titre.
Alors pour que les auditeurs comprennent bien, par rapport à un sous-titre habituel que l'on voit au cinéma, une VO sous-titrée en plusieurs langues, comme on le retrouve dans des menus de DVD, quelle est la particularité du time-codé dont vous parlez et de la spécificité technique?
Alors, ce qui est tout à fait innovant dans le vidéo player que j'ai breveté aux États-Unis, c'est en fin de compte d'avoir un double sous-titrage bilingue. Donc, on a à la fois en premier sous-titre le sous-titre en langue originale,
oui,
la VO, et en deuxième sous-titre dans la langue maternelle de l'utilisateur.
Et ce, pour combien de langues?
Actuellement, on gère 10 langues.
Oui, ce en quoi c'est une première mondiale, parce qu'effectivement, il n'y a pas de...
Ah oui, tout à fait, même YouTube n'est pas en bilingue, en tout cas en simultané.
Oui,
il faut bien
ça.
Préciser que avoir des sous-titres dans plusieurs langues, c'est assez courant, mais pouvoir lire 2 sous-titres à la fois, ça c'est une nouveauté. Ensuite, l'autre innovation clé du projet, c'est que ce sous-titre est un texte et donc il est cliquable, contrairement à un fichier DVD. Et donc,
il est cliquable, ça veut dire que vous pouvez vous arrêter mot par mot pour
absolument.
Par exemple, pourquoi ? Pour arriver à une définition, pour figer l'évolution de votre film et se dire là, il y a une expression particulière.
Absolument.
La remettre dans le contexte, travailler son apprentissage des langues par ce biais.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Donc l'idée, ça a été de pouvoir gérer le workflow de l'apprentissage. C'est un outil pédagogique. Lorsqu'on clique sur un mot qu'on ne connaît pas ou qu'on veut réviser, la vidéo se met en pause, la définition du mot s'affiche,
oui,
et ce mot cliqué, en langue anglaise par exemple, est enregistré dans le carnet de vocabulaire personnel de l'utilisateur.
Ah oui, et on se retrouve avec du coup une bibliothèque
vocabulaire
personnalisé qu'on peut retravailler par la suite.
Retravailler sous forme de quiz par exemple.
Exactement.
Et la dernière phase du click and learn, donc je clique et j'apprends, parce que tout ce processus de je clique sur un mot, la définition s'affiche, le mot est enregistré dans ma liste de vocabulaire et je fais un quiz à partir de tous ces mots enregistrés, permet aussi au final de suivre la progression d'une personne par un moyen graphique.
Par un moyen graphique, je comprends. Et comme bon nombre d'auditeurs, entrepreneurs qui savent qu'une idée en amène une autre, vous avez eu, comme vous l'avez expliqué, cette envie, vous avez créé, codé, développé ce principe click and learn via You Speak It. Ça vous a donné également l'envie de développement d'un autre projet, bien sûr dans le monde de l'enseignement des langues, et avec une approche évidemment internationale.
Absolument, c'est la deuxième brique technologique de You Speak It qui est toute récente. Il s'agit d'un réseau social des langues, donc qui est à destination des particuliers, mais essentiellement des professeurs de langues étrangères et leurs élèves. Donc avec ce réseau social des langues, les professeurs peuvent gérer les classes, inviter leurs élèves et mettre en relation des classes du monde entier. Je donne un exemple, une classe de Paris, une classe de collège parisienne qui apprendrait l'anglais peut être mise en relation avec une classe de collège à New York qui apprendrait le français.
Et du coup, d'une manière interactive et plus agréable et instructive qu'aujourd'hui, des correspondances X ou Y qui sont à l'initiative des professeurs, mais pas à travers un outil dédié qui correspondrait à leurs besoins.
Absolument. Parce que ce qui est aussi particulier de ce réseau social, c'est qu'il peut intégrer, bien sûr, tout comme dans la timeline de Facebook, il peut intégrer de la vidéo, il peut intégrer des photos et puis des commentaires simples. Mais à chaque fois, l'utilisateur est obligé d'écrire dans deux langues. Donc, il y a ce bilinguisme obligatoire.
Obligatoire, je suppose que celui qui est en face et qui lit répond dans la langue de son pays.
Absolument, et peut corriger son correspondant de langue.
Son correspondant, et donc on est en auto-émulation par ce biais-là. Et là aussi, c'est une nouveauté. Vous avez été assez discret sur le parcours de création. Lorsque nous préparions cette émission, vous nous avez expliqué également, et ça intéressera certains auditeurs de We Do Biz qui ont également des parcours de création complexes et effectivement souvent difficiles. Vous parliez de prise de risque. Vous avez souhaité d'abord créer votre entreprise en France. Il s'est trouvé que vous avez une expérience à l'international. Vous êtes formé aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez revenir sur justement cette formation aux États-Unis et ce qui vous a amené à prendre votre décision de création de votre entreprise, pour l'instant, à l'étranger?
Oui, alors effectivement, on a décidé très récemment de créer l'entreprise aux États-Unis parce que, tout d'abord, l'équipe est internationale.
Oui.
Les nouveaux cofondateurs habitent l'un en Belgique, l'autre en République serbe et moi en France.
Donc ça aurait pu être français.
Ça aurait pu être français, mais c'est une cloud team déjà avec un brevet américain.
Oui.
Et à l'origine déjà avec une collaboration avec des anciens du MIT sur la reconnaissance vocale. Donc dès la naissance
dès la genèse,
il y avait un côté international et le marché ciblé est un marché international en fin de compte. Donc votre question c'est, mais alors pourquoi pas en France?
Effectivement, le marché que ce soit international, votre envie de le développer au profit d'une population internationale, parfait. En termes de retour d'expérience, c'est à l'entrepreneur que je m'adresse. Votre choix néanmoins d'avoir acté la création sur le sol américain est motivé par quel parcours en France?
Eh bien, basiquement, nous n'avons pas trouvé de soutien effectif, au-delà des mots. Nous n'avons pas trouvé de soutien effectif et d'intérêt pour le projet, même auprès des financeurs.
Donc, vous voulez dire qu'après, avec le parcours que vous avez, la façon dont vous avez monté les dossiers,
oui,
on est un peu dans le cliché du « je vous suis si vous prenez 100% des risques et
oui,
moi je vous suis si éventuellement ça marche ». Et malgré toutes les démarches que vous avez pu faire, vous avez pu constater une différence majeure entre l'offre française et l'accompagnement et l'offre américaine.
Oui, tout à fait. Donc, en fin de compte, au tout dernier moment de notre tentative de création en France, il a été clair pour nous que si nous devions prendre 100% des risques, nous voulions 100% des gains. Parce que le risque est très fort sur la phase amorçage d'une start-up. Et actuellement, nous sommes les seuls, les cofondateurs sont les seuls à prendre les risques financiers qui sont importants. Et donc, les Américains ont un terme pour cette période très difficile pour les startups, c'est la Death Valley, la vallée de la mort. C'est-à-dire que souvent, par absence de financement, en période d'amorçage, c'est-à-dire la première phase de l'entreprise, beaucoup de startups meurent, tout simplement.
Oui.
Parfois parce que le projet est mauvais, parce qu'il a été mal mis en place, parce que l'équipe n'avait peut-être pas toutes les compétences, mais aussi, ça on ne le dit plus, mais aussi par absence de financement. Donc, il était clair que si on devait continuer à prendre tous les risques, on voulait le faire avec l'espoir qu'en cas de réussite, nos efforts énormes pouvaient être récompensés. Et donc, l'environnement légal et fiscal américain est beaucoup plus stable et beaucoup plus intéressant pour la création d'entreprises.
Et dans le cadre des initiatives françaises pour accompagner les entrepreneurs et les startups, vous avez participé récemment au Web de Connect, qui est un rassemblement en Ile-de-France qui rassemble les professionnels du web. Certains ont également un parcours international.
Oui.
Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur ce que vous avez tiré de votre expérience, de ce partage justement avec d'autres acteurs qui ont rencontré dans l'univers des startups des difficultés similaires ?
Eh bien, il s'avère que certaines personnes que j'ai rencontrées à cette occasion me confirmaient aussi que de plus en plus d'entrepreneurs français prenaient la décision, choisissaient de créer l'entreprise à l'étranger.
Bon, donc nous avons aujourd'hui, en tout cas, dans cette émission des Hommes Clés, un retour d'expérience de Yannick Herchat pour ce profil nourri d'abord par l'international, souhaitant développer son entreprise en France. Nous laisserons les auditeurs prendre contact avec lui pour en savoir plus en détail sur ce projet de You Speak It et ce réseau social autour de l'apprentissage des langues, mais également d'échanges d'expériences entre entrepreneurs, parce qu'il y a aussi des cas en France où on arrive à trouver des fonds, mais toute une histoire de rencontres et de présentations.
Oui, mais alors Benoît, je veux insister sur des points qu'on n'a pas encore évoqués. Donc, par rapport à ce que vous venez de dire, effectivement, les investisseurs sont plus intéressés par des produits à la mode, je dirais, comme le cloud, comme, vous savez, il y a l'e-learning est quand même le parent pauvre dans ce domaine.
Oui, là aussi, il y avait un vide à remplir.
Voilà. Donc, mais néanmoins, on n'a pas de champion français en e-learning et en language learning, en fait.
Le français reste terriblement timide et un tout petit peu prétentieux quant à l'apprentissage des langues. C'est qu'il demande d'abord aux autres d'apprendre le français.
Et néanmoins, on a des champions étrangers en Allemagne, en Espagne et aux États-Unis, bien sûr. Et je voudrais citer que la seule entreprise d'e-learning qui est parue dans le Inc. 500, donc les 500 entreprises les plus performantes de cette année aux États-Unis, la seule entreprise d'e-learning qui figure est une entreprise qui n'a pas levé des fonds. Une entreprise qui s'est financée sur fonds propres. Donc ça aussi, ça a été déterminant dans notre choix, c'est-à-dire qu'on s'est dit, en fin de compte, notre idée, c'est de créer un user, d'être fondé, d'être soutenu par nos users qui vont pouvoir acheter des parts, des actions. Donc le membre actionnaire, légalement aussi, ce n'est pas possible actuellement en Europe. La loi du Jobs Act va être transcrite en janvier 2013 et va permettre à toute start-up de lever des fonds de façon publique, sans intermédiaire, directement auprès des utilisateurs ou de n'importe qui, et donc créer une nouvelle façon de financer les entreprises.
Bah écoutez, voilà, merci beaucoup Yannick. Voilà une très bonne conclusion qui fera l'objet d'autres émissions sur le crowdfunding et sur la façon de financer les start-up. Et on va suivre ce mouvement, ces évolutions législatives. Merci beaucoup. Je laisse les auditeurs retrouver Yannick Herchat et You Speak It en ligne. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine émission. À très bientôt. Merci.